Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Lursa, qui vient nous parler de La maison de mon père, fragment autobiographique, signé Golda Meir, qui vient de paraître aux éditions L'Éléphant. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sandrine.
Alors, vous êtes un habitué hein, de cette émission. On sait que vous êtes essayiste, traducteur et auteur. Vous vivez entre la France et Israël. Et une nouvelle casquette, peut-être maintenant, vous êtes devenu éditeur, c'est bien ça?
Oui, on peut le dire, oui. J'ai surtout créé cette collection qui s'appelle La Bibliothèque Sioniste, qui a pour ambition de porter à la connaissance du public francophone des grands textes d'auteurs sionistes, de dirigeants et de fondateurs du mouvement sioniste. Et donc, après avoir publié deux livres de Jabotinsky, je publie ce livre autobiographique de Golda Meir, qui n'avait jamais été traduit en français.
Alors justement, votre actualité, c'est donc la parution de mémoires de Golda Meir, La maison de mon père, fragment autobiographique aux éditions L'Éléphant. Ces fragments autobiographiques de Golda Meir ont été publiés en Israël en 1972. Golda Meir était alors Premier ministre de l'État d'Israël depuis plusieurs années et ce texte est traduit en français pour la première fois aujourd'hui. Il couvre la première partie de la vie de Golda Meir, son enfance en Russie, sa jeunesse passée en Amérique, son arrivée au kibbutz Meravia dans les années 20. Tout ça est évoqué hein, au fil du récit. On y découvre, outre l'autoportrait de celle qui allait devenir la première femme Premier ministre de l'État d'Israël, la description fidèle et sans fioriture d'une génération tout entière, celle des pionniers de la Troisième Alia entre 1921 et 1924. Comment vous est venue l'idée de publier ce texte en particulier ?
Eh bien, c'était un petit peu par hasard, en fait, mais on dit qu'il n'y a pas de hasard. Je suis tombé sur ce livre dans une bibliothèque de rue à Jérusalem. Et quand j'ai ouvert ce livre, je suis immédiatement tombé sous le charme et je me suis dit qu'il fallait le traduire s'il ne l'avait pas été déjà fait et si ça n'avait pas déjà été fait. Et je me suis rendu compte très vite qu'il n'avait jamais été traduit en français. Il existe en français son autobiographie plus longue et plus tardive, qui a été publiée déjà dans les années 70, mais ce petit livre-là n'avait jamais été traduit. Et donc j'ai tout de suite pensé qu'il fallait le traduire.
Alors je vais commencer par lire l'incipit hein, de la maison de mon père, si vous me le permettez. Donc Golda Meir écrit en hébreu et vous traduisez en français. Il m'est très difficile de déterminer avec certitude quelles sont les qualités et les tendances que j'ai héritées de mes parents, du foyer où j'ai grandi. Je ne voudrais en aucune manière leur faire porter la responsabilité de ce que je suis. Il me semble qu'une des choses que j'ai reçues de mes parents est le refus de m'isoler dans mes affaires personnelles ou familiales. De mon père, j'ai hérité l'obstination. Dans la mesure où j'ai fait preuve de capacité de résistance, elle me vient principalement de lui. De ma mère, j'ai reçu l'optimisme. À aucun moment, l'amertume ne régnait dans la maison, y compris durant les périodes les plus difficiles. Mon engagement politique me vient plutôt de ma sœur que de mes parents. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute à mes yeux que toutes les choses positives qui existent chez moi viennent de ma famille, de mes parents et de ma sœur. Si j'y ai ajouté des choses négatives, ils n'y sont pour rien et ce n'est pas leur faute. Alors Golda Meir va alors détailler le portrait de ses proches tels qu'elle les voit. Avant de raconter les étapes de sa vie, eh bien Golda Meir, qui naît Mabovitch à Kiev le 3 mai 1898, explique son engagement. Est-ce que c'est finalement cet engagement qui motive l'écriture de ses mémoires et en fait raconter les racines de ses responsabilités politiques qu'elle trouve dans sa famille ?
Oui, c'est un des aspects intéressants dans ce livre, effectivement, c'est qu'on y découvre un petit peu les prémices d'une carrière politique et d'un engagement politique et sioniste qu'elle raconte avec beaucoup de sincérité et aussi de modestie d'ailleurs, parce qu'elle attribue un peu à tous les membres de la famille qu'elle cite ses propres qualités, alors qu'on voit bien en lisant son récit que finalement elle a sans doute été marquée par ces différentes personnes et aussi par sa grand-mère dont elle porte le nom, mais évidemment elle en a fait toutes ses qualités, elle en a fait quelque chose d'unique qui ne lui appartient qu'à elle.
Alors justement, elle raconte cette enfance entre Kiev et Pinsk, cette extrême pauvreté, les menaces de pogrom, la peur des Cosaques, le père qui part aux États-Unis pour faire subsister toute la famille. Pendant ce temps, la famille, elle reste à Pinsk et finalement, les conditions de vie s'améliorent un peu chez les grands-parents. Et puis, il y a cette sœur Shaina qui s'engage très tôt, d'ailleurs, ce qui inquiète beaucoup sa mère et son père qui est resté loin. Pourquoi Shaina n'est pas davantage connue que Golda Meir, d'après vous?
Shaina, c'était une militante, mais qui est restée un peu dans l'anonymat, ou qui est retombée dans l'anonymat, mais effectivement, c'est une personnalité très marquante. On voit bien que c'est l'exemple de sa sœur aînée qui a été déterminant pour elle, puisque même enfant en Russie, alors qu'elle a encore que 8 ou 9 ans, elle sait déjà qu'elle est sioniste. Elle ne sait même pas ce que ce mot veut dire, mais elle sait bien qu'il y a d'un côté les sionistes, de l'autre côté les bundistes. Et quelque part, on a l'impression qu'elle devient sioniste sans même le savoir, à son insu, sous l'exemple de cette sœur qui est à la fois un personnage très très marquant et qui est aussi un personnage un petit peu terrible, parce qu'elle apporte... Elle apporte que des frayeurs et des soucis à ses parents, parce que évidemment être sioniste socialiste dans un mouvement considéré comme révolutionnaire dans la Russie du tsar, c'est quelque chose de tout à fait mal vu et dangereux.
Alors justement, toute cette famille a rejoint le père aux États-Unis. Ils habitent le quartier juif de Milwaukee, qui est à majorité sioniste. C'est un ferment aussi du mouvement sioniste là-bas sur place.
Oui, alors la période américaine, effectivement, est aussi très déterminante dans sa vie, parce que, d'une part, c'est le début de son engagement juif. Son père est un juif traditionnaliste et très impliqué dans la vie de la communauté, et qui s'intègre très bien aux États-Unis, même si plus tard il va partir en Israël, il va à nouveau s'exiler, enfin rentrer en Israël. Et puis Milwaukee, c'est là où elle va rencontrer effectivement les premiers militants sionistes, qui sont ni plus ni moins que David Ben-Gurion et Yitzhak Ben-Tzvi, et qui se trouvent à l'époque expulsés d'Eretz Israël par le pouvoir ottoman. Et donc elle va les rencontrer, et quelque part c'est peut-être le début de sa future carrière, puisqu'on sait que c'est David Ben-Gurion qui deviendra son mentor et qui va l'encourager et la pousser et la nommer à ses premières fonctions politiques importantes au sein de la Histadrout.
Voilà, et c'est pour ça qu'elle
sera montée en Israël.
Oui, très normalement les deux sœurs arrivent en Palestine sous le mandat britannique en 1921. Elles sont ensuite rejointes par leurs parents. Pourquoi vous laissez Israël dans le texte? C'est comme ça qu'elle le dit, Eretz Israël.
Oui, elle parle toujours d'Eretz Israël. Il n'y a pas le mot Palestine, ne figure pas dans son récit.
Oui.
Oui, bien sûr, il s'agit de la Palestine mandataire, mais elle parle toujours d'Eretz Israël.
D'accord. Alors ce qui est intéressant aussi, quand on voit les titres que vous publiez dans la bibliothèque sioniste, il y avait deux ouvrages avant de Jabotinsky, et puis il y a le Golda Meir, qui est quand même un autre sionisme, un sionisme socialiste. Est-ce que ça pose problème, ou finalement c'est un engagement des engagements qui se rejoignent entre Jabotinsky et Golda Meir? Est-ce que vous trouvez des points communs?
Oui, vous avez raison de souligner ce... Effectivement, j'ai commencé par Jabotinsky, pour lequel j'avais des affinités particulières, mais quand j'ai lu le texte de Golda Meir, ou quand je lis d'autres textes que je traduirai peut-être un jour aussi, finalement je me rends compte qu'avec le recul du temps, les différences s'amoindrissent, et vu en perspective depuis un siècle plus tard, je dirais que le sionisme sous toutes ses facettes demeure aussi, on voit tout ce qui les rapproche, malgré toutes les oppositions et les polémiques de l'époque qui, évidemment, qu'on ne peut pas occulter. Mais l'engagement sioniste, lui, c'est le même.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Pierre Lursa, qui nous parle du livre de Golda Meir, traduit en français, « La maison de mon père », fragment autobiographique qui vient de paraître aux éditions L'Éléphant. Vous êtes le préfacier, hein, en plus de l'éditeur. C'était important pour vous d'écrire cette préface ?
Oui, bien sûr, je voulais un petit peu expliquer... qui fait l'intérêt de ce texte, même s'il se suffit à lui-même, mais quand même donner, peut-être souligner quelques aspects qui m'ont particulièrement intéressé, et notamment celui de sa conception du féminisme, parce que c'est quelque chose qui est à la fois très actuel et en même temps très loin de certaines idées féministes aujourd'hui, très très... Et d'ailleurs, elle-même, elle, dans un autre texte, je le cite, mais c'est dans un autre livre, elle explique que sa conception du féminisme est très différente des autodafés de soutien-gorge et des femmes qui protestent contre la maternité, qui refusent d'être mère. Et en même temps, on découvre en fait dans ce livre autobiographique, on découvre en fait ce que fut le féminisme des femmes de la deuxième et de la troisième alia, qui est un féminisme très très je dirais, très, très beau, parce que c'est des femmes qui revendiquent à la fois l'égalité des droits et des devoirs et qui accomplissent toutes les tâches que qu'accomplissent leurs camarades hommes au sein du mouvement kibboutzique. Et en même temps, elles ne renoncent pas pour autant à leur vie de femme et de mère.
Alors c'était important de le rappeler, il y a un autre élément aussi, un autre paramètre que vous mettez en avant, c'est cette étape historique de la troisième Alia que Golda Meir raconte de l'intérieur, et puis son apport au mouvement sioniste, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, alors elle a une certaine pudeur, une certaine modestie, puisqu'elle dit nous, les gens de la troisième Alia, nous n'avons rien apporté de nouveau, nous n'avons fait qu'accepter les principes que nous ont légués nos aînés de la seconde Alia, c'est-à-dire le travail juif, la défense juive, la vie en collectivité, l'hébreu, etc. Et finalement, on sent bien que c'est pas tout à fait exact, parce que la troisième Alia, c'est quand même c'est la période de la Première Guerre mondiale, le début des années 20, et c'est là que sont créées les principales institutions du Yishuv, et notamment la Haganah et aussi la Hestadrout, à laquelle Golda Meir prend une part importante. Et donc la troisième Alia, elle a bien apporté quelque chose de spécifique dans la construction d'Eretz Israël et du futur État d'Israël. Mais effectivement, c'est vrai que les principes fondateurs qui avaient déjà été posés par la génération précédente sont très très importants dans sa vie, et notamment, comme elle l'explique, la vie en collectivité. Avant même de venir en Israël, alors qu'elle est encore en Amérique, elle sait parfaitement qu'elle va habiter dans le kibboutz, alors qu'elle ne sait pas encore ce que c'est concrètement que le kibboutz.
Israël est peut-être un pays plus qu'un autre où on voit les différentes couches d'apport de la population juive. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, Golda Meir, pour la nouvelle génération d'Israéliens? Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce qu'elle est une figure tutélaire?
Alors, ça, c'est une question qui n'apparaît pas trop dans le livre, mais je dirais que son image en Israël est un petit peu différente de son image en dehors d'Israël, où elle reste un petit peu l'icône d'une génération et à la fois la dame de fer d'Israël et une des premières femmes au monde qui est devenue premier ministre, la troisième et la seule en Israël. En Israël même, son image a été un petit peu écornée pour toutes sortes de raisons, évidemment qui sont liées à la guerre de Kippour qui a précédé la fin de sa carrière politique et qui a été un événement traumatique en Israël dont on sent encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc je dirais qu'elle est à la fois évidemment une grande figure de l'histoire d'Israël. Et en même temps, il y a certaines critiques qui ont été portées à son égard qui demeurent encore vivantes jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, outre le fait qu'elle a été quelque part, on lui a imputé tous les défauts du pouvoir travailliste qui a pris fin quelques années après la guerre de Kippour. Donc elle a un petit peu, je dirais, payé les fautes de toute une génération de dirigeants, les fautes réelles ou supposées d'ailleurs. Et puis par ailleurs, elle a un petit peu l'image aussi d'une femme insensible, d'une femme dure, ce qui n'est pas du tout le cas. On le découvre en lisant ce livre, on découvre une femme tout à fait sensible. Et, oui. Et notamment dans la dernière partie du livre, quand elle raconte ce qu'elle qualifie d'un des plus beaux événements de sa vie, c'est la rencontre avec des jeunes soldats au Kotel juste après la guerre des six jours. Et lorsqu'un jeune parachutiste pose sa tête sur son épaule et se met à pleurer sur son épaule, pour elle, c'est un moment de grâce et c'est un des plus beaux souvenirs de sa vie. Donc on voit une femme tout à fait sensible et très humaine aussi.
Quand vous avez décidé de traduire ces mémoires et de les publier, est-ce que vous avez pensé au public? Selon vous, à qui est destiné ce livre?
Écoutez, effectivement, la bibliothèque sioniste, ça s'adresse a priori à des gens qui ont un intérêt, sinon une sympathie pour le sionisme. Mais j'espère évidemment que le livre touchera des lecteurs au-delà du seul public juif ou israélien francophone, qui est le public auquel il s'adresse le plus évidemment. Mais j'espère quand même que d'autres lecteurs auront envie de découvrir ou de redécouvrir la figure de Golda Meir, et peut-être aussi dans la jeune génération en France, puisque les gens qui sont nés après son décès, donc pour qui elle ne signifie pas grand-chose a priori, je pense que c'est une figure qui a encore une signification pour aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé de montrer un petit peu peut-être en présentant le texte, une figure de femme dirigeante, une figure de une des fondatrices de l'État d'Israël. Je pense que c'est, elle mérite d'être redécouverte aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a, plusieurs films ou séries qui doivent sortir cette année. Donc, on sent que l'intérêt pour elle n'a pas tari.
Et c'est un personnage fascinant, une femme qui devient Premier ministre avec tout ce qu'on sait d'elle. Alors, les points positifs comme les points négatifs, mais en tout cas une personnalité hors du commun qu'on voit notamment dans la conclusion de ces trois textes que vous publiez. Et comme l'incipit, je me permets de le lire. Alors, elle écrit en hébreu et vous traduisez. En conclusion, je voudrais souligner une chose que j'ai déjà dite à plusieurs reprises. Je pense que je me sens tellement bien ici depuis bientôt 50 ans, car il y a deux sentiments que je n'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais eu l'impression de sacrifier, à Dieu ne plaise, quelque chose pour notre pays, et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir droit à quelque chose. Et mon seul espoir est de voir, avec l'ensemble du peuple d'Israël, le jour où je saurai que personne ne court de danger chez lui, et que tout appel au téléphone ou venu d'un adjudant à sa porte ne suscitera aucune crainte, et où nous saurons que le calme n'est pas accidentel, qu'il est là pour durer, non pour une heure, une nuit, mais que chaque heure et chaque nuit seront tranquilles, car c'est ainsi que cela doit être, et chacun vivra paisiblement, et qui sait, peut-être verrons-nous ce jour. Finalement, c'est une sorte de plaidoyer pour le sionisme, ce texte qui incite les lecteurs et les lectrices à revoir l'histoire d'Israël et revoir aussi peut-être son rapport à la diaspora. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu surtout comme un témoignage d'une génération et puis d'une époque qui est déjà un petit peu lointaine et en même temps qui nous parle encore. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un plaidoyer parce que aujourd'hui, on est un petit peu, malheureusement, on s'est un petit peu éloigné des valeurs fondatrices du sionisme. Et les événements récents en Israël montrent bien que ce qui paraissait alors aller de soi, aujourd'hui ne va plus du tout de soi. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que j'ai voulu publier ce texte parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai publié Jabotinsky, qui est un auteur beaucoup plus... disons qu'il y a une image beaucoup moins consensuelle, alors que Golda Meir, en tout cas en dehors d'Israël, a encore une image consensuelle. Mais finalement, on retrouve chez l'un comme chez l'autre les valeurs fondatrices du sionisme qui méritent d'être découvertes aujourd'hui, que ce soit l'amour de l'hébreu, l'adhésion au projet de souveraineté juive en Eretz Israël et toutes ces valeurs fondatrices qui ont été un petit peu négligées depuis et qui restent d'actualité.
Au travers justement de la lecture notamment de cette biographie. Est-ce que vous avez déjà en tête le prochain livre qui sera publié aux éditions L'Éléphant ?
Alors, le projet de la bibliothèque sioniste, d'ailleurs juste entre parenthèses, les livres sont publiés sur Books on Demand, donc on peut les trouver sur Internet, mais aussi notamment dans toutes les librairies. Le projet de la bibliothèque sioniste, c'est un projet très éclectique, donc j'ai l'intention, j'espère pouvoir traduire des auteurs très très différents, soit qui n'ont jamais été traduits en français, soit dont les livres sont épuisés. J'ai pensé à Max Nordau, j'ai pensé aussi au journal de Chana Senech. Il y a beaucoup de projets, et évidemment c'est une question de temps aussi et de moyens à y consacrer, mais j'espère bien sûr publier encore des auteurs très différents dont les noms sont parfois connus mais dont les textes sont beaucoup moins, en tout cas dans le public francophone.
Et c'est faire œuvre utile puisque c'est redécouvrir des personnalités importantes du sionisme qui sont oubliées ou moins connues. Il y a une question classique mais non moins difficile pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire ce livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Eh bien, je leur dirais tout simplement que c'est un grand livre qui n'est pas seulement un morceau de l'histoire du peuple juif au XXe siècle, mais qui est aussi l'occasion de découvrir un visage très humain et aussi l'humour très spécial de Golda Meir qu'on connaît, dont on a peut-être oublié, mais c'est une femme qui avait beaucoup d'humour. Donc c'est un livre qui intéressera et aussi qui vous fera rire.
Alors vous l'avez dit il y a un instant, on peut le trouver facilement ce livre en librairie, en le commandant sur les sites de livres en ligne. Ça fonctionne facilement.
Oui, on peut le trouver très facilement sur Internet et on peut aussi le commander chez tous les libraires. Il est publié par Books on Demand.
Merci infiniment, Pierre Lurçat, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'évoquer avec nous la parution de Golda Meir, La maison de mon père, fragment autobiographique, qui vient de paraître aux éditions L'Éléphant. Bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir, merci à vous, Sandrine.